Bon, ben, on poursuit ce matin, Ray, avec le travail, le métier d'agent d'athlète. Hier, tu as fait un survol, puis tu nous as expliqué comment ça fonctionnait dans le hockey, dans le football. On va aller avec un peu plus de détails ce matin.
Ouais, je voulais parler de ça parce que, tu sais, je veux quand même souligner c'est quoi, qu'est-ce qu'un agent fait sur une base quotidienne. Il encadre l'athlète, il les développe, il les soutient, c'est un allié, c'est un ami. C'est un conseiller. Il trouve aussi les ressources autour de l'athlète. Par exemple, ils ont besoin de services comptables, d'un planificateur financier, d'un service légal. Ils ont besoin de recherchistes. Ils ont besoin de graphistes ou de gens de marketing. Alors, l'agent, là, c'est comme la personne qui est un monsieur à plusieurs chapeaux, une dame à plusieurs chapeaux qui orchestre un peu la vie de l'athlète. Puis une des choses qui est importante, c'est de filtrer aussi pour l'athlète les premières communications avec la presse. Parce que les athlètes ont besoin de conseils. Puis avant, des fois, qu'ils se retrouvent avec un service média dans une équipe, bien, ils ont besoin de conseils pour répondre aux questions, puis se préparer à s'orienter et à expliquer puis articuler les points devant les journalistes. Surtout les athlètes qui ont un espoir, des prospects pour atteindre les rangs professionnels. J'ai parlé hier là, du 4% pour la commission, qui est pas mal standard. Puis la raison pourquoi, c'est que aujourd'hui, on a moins besoin d'agents pour négocier les premiers contrats. Mais il y a le côté commercial que je n'ai pas touché. Puis le côté commercial, c'est les endossements publicitaires. Puis dans ce cas-ci, un agent peut aller chercher jusqu'à 20 %. Puis pourquoi c'est si élevé? C'est parce que l'agent fait tout le travail et identifie les prospects, les clients et négocie les ententes. Donc, c'est forcément lui ou elle qui est plus responsable de cette opportunité-là commerciale qui va se faire là. Puis ça, c'est important parce que c'est pas quelque chose qui est naturel pour tout le monde. Puis il y a même des agents qui préfèrent ne pas négocier des ententes commerciales puis qui embauchent littéralement une firme pour le faire.
Parce qu'il faut que tu vendes ton client parce que le produit, par exemple, Apple, ils ont le choix de prendre un artiste, un joueur de baseball, un joueur de hockey. Ils ont un choix là, illimité, eux autres. Là.
Puis, tout à fait. Puis en plus, c'est pas tous les athlètes. Je pense toujours à Carey Price, qui, à mon avis, c'est le meilleur gardien au monde, peu importe où il est rendu dans sa carrière. Mais Carey Price, c'est pas le genre de gars qui aime avoir son visage placardé partout sur des bannières. Alors, il est assez sélectif avec les entreprises avec lesquelles il est partenaire. Puis là, on a parlé d'Alexis Lafrenière récemment, qui, lui, tombe dans le marché de New York, puis il va avoir beaucoup d'opportunités pour lui. Mais c'est pas dit qu'il va vouloir s'associer à n'importe quoi non plus. Donc, c'est là le travail des agents. Dans la business des agents, il faut être un passionné de sport. Puis les jeunes qui pensent à des carrières là-dedans, si d'abord, ils sont pas polyvalents puis diversifiés dans le sport, puis ils en mangent pas, bien, c'est pas une carrière pour eux autres. Ça, c'est sûr. Les agents les plus connus dans le hockey, les deux principaux, c'est Pat Brisson, un Québécois, qui réussit très bien pour la firme Creative Artist Agency à Los Angeles, et Don Meehan à Toronto. Puis ces gars-là ont des gros clients. Par exemple, des clients de Brisson, c'est des John Tavares, des Sidney Crosby, des Patrick Kane, Jonathan Toews, il y en a beaucoup d'autres. Puis au baseball, le plus gros agent, le plus imposant, c'est Scott Boras. Alain puis moi, on a parlé en ronde hier. Dans son actif de contrat de client, ça totalise 2,4 milliards de dollars. Fait que ça, pour vous faire un calcul rapide, imaginez qu'il fait à peu près 4 % sur le 2,4 milliards de dollars. C'est beaucoup d'argent, mais lui, ça fait 25 ans qu'il est là-dedans. C'est le roi des agents dans le sport. Il a même une influence avec les propriétaires et avec les dirigeants du baseball majeur. Il le consulte souvent parce que lui fait pencher la balance des joueurs quand c'est le temps d'entendre, de s'entendre pour des conventions collectives.
Et il est à la tête d'une véritable entreprise, lui-là.
Tout à fait. Tout à fait. Et avec des recherchistes, avec des stagiaires, avec des statisticiens, avec des spécialistes en données analytiques. Bon, la question que tu as soulevée, Paul, je vais l'adresser maintenant. C'est-à-dire, y a-tu des conflits d'intérêts lorsqu'un agent a 2, 3, 4, 5, 10 clients? Puis la réponse, c'est oui, effectivement. Parce que c'est normal qu'un agent gère les affaires de plusieurs joueurs. Puis c'est normal qu'un agent essaie toujours de placer ses joueurs avec des dirigeants avec lesquels il entretient de bonnes relations. C'est toujours une question de relations étroites, de relations quasi amicales. Puis c'est important de toujours prioriser les relations avec les gens qu'on connaît et avec qui on a confiance. Fait que quand je pense à Marc Bergevin, bien, lui, il a une bonne connexion, relation qui date de plusieurs années avec un gars comme Pat Brisson. Fait que c'est pas étonnant parfois que des joueurs dans le portfolio de Pat Brisson se retrouvent avec Marc Bergevin.
Je pense que Don Meehan avait une relation assez étroite avec Serge Savard, Et je pense que même ils faisaient des affaires ensemble à l'extérieur du hockey.
Oui, mais là, mettons que je me mets à la place du joueur, là. Je comprends que tu as un intérêt à ce qu'il soit, que la relation soit bonne, mais est-ce qu'il peut sacrifier mes intérêts au profit d'un autre joueur de son écurie ou rendre service à son ami le DG?
Oui, alors c'est ça la question. C'est un code de confiance qui est non écrit, qui fait en sorte là, qu'ils vont tenter de s'aider. Pas aux dépens du bien du club, bien sûr. Là. Le directeur gérant non plus, il ne peut pas affaiblir son équipe pour faire plaisir à un agent, puis vice-versa. Mais c'est certain que ce qu'on appelle en anglais, Paul, des IOU, c'est-à-dire « je t'en dois une ». Ça existe là-dedans. Pour qu'un dirigeant accepte des conditions d'un agent parce qu'il lui a rendu des services dans le passé pour peut-être aiguiller son client vers son équipe. C'est certain. Mais, encore une fois, c'est toutes des choses tout à fait légales et justes. Les directeurs gérants qui ont les meilleures relations avec les agents, ben, ils réussissent le mieux. Parce que ça veut dire que les agents ont confiance dans le processus de négociation. Puis ils ont confiance qu'il va prendre soin de tous les joueurs correctement. Donc, c'est pas qu'on prend un mauvais joueur parce qu'on a rendu service à un agent. Non, c'est que peut-être qu'on va être plus disposé, plus ouvert à entreprendre des négociations ou faire une offre de contrat intéressante. Puis parfois, ça peut aussi créer une enchère ou une surenchère avec d'autres équipes. Fait que finalement, les relations, c'est la clé du succès là-dedans. L'agent vend les qualités du joueur, il vend les statistiques, les données analytiques, puis il y a des facteurs comme l'histoire, le passé, les blessures qui peuvent entrer en ligne de compte. Puis il y a une chose qui est claire, les joueurs ne sont jamais égaux. Là. On pense qu'un joueur est égal, il joue sur le deuxième trio d'une équipe, il a le même nombre de points. Il y a toujours des différences de joueurs.
Le bon joueur ne sera jamais pénalisé, à mon avis.
Absolument pas.
Un cas en particulier là, d'un gars qui a une belle et longue carrière dans la Ligue nationale, mais qui n'a jamais été une vedette. Là. Et
non,
lui,
il ne sera pas pénalisé.
Fois,
parce
qu'il... j'ai été sacrifié pour qu'on puisse...
C'est ça.
Pour que l'autre
ça n'arrivera jamais qu'il va être sacrifié au détriment de son actif par rapport à un meilleur joueur que le même agent possède. Bien sûr que non. Mais, au contraire, ça peut devenir une relation positive puis créer des opportunités qui n'existaient pas avant.
Merci, monsieur. Bonne fin de semaine.
Bon week-end, messieurs.
8h37. Les gens m'en apprennent sur le bingo, là. Non, mais tu sais, là, il y a un chauffeur de taxi qui m'explique qu'il s'en va reconduire du monde régulièrement à 4-5 heures l'après-midi pour le bingo du soir. Là. Fait que là, tu sais, puis d'autres qui m'expliquent que, disons que le 2 mètres puis le masque, on y repassera dans certains cas. Ben là, tu sais, je veux dire, en tout cas, tu portes pas un jugement sur l'activité. Ce que tu dis, c'est que dans le contexte actuel, puis honnêtement, c'est... Le message de la santé publique, moi, ce que j'ai compris, c'était 50 personnes. C'était pas 200, là.
Ils n'ont pas 50 mètres de carte. Mètres de carte entre chaque...
Mais tu sais, en tout cas, on découvre un certain nombre. Puis là, les salles de quai, ça a l'air que c'est assez confus, ça, avec.
Bon.
C'est ce qu'on me dit, là, que les... selon certaines interprétations, il y a des propriétaires qui ferment, puis d'autres qui disent non, c'est ouvert, puis on a le droit, puis en tout cas, on partira pas la vendetta, là, sur ce qui... passe dans ces établissements-là. Ça a l'air de quoi sur le réseau?